à cette l'abus de DNS, l'utilisation frauduleuse. C'est un sujet d'intérêt pour une grande communauté. Il est difficile de définir l'utilisation frauduleuse du DNS. Il en existe différents noms. Mais nous avons décidé de limiter les aux utilisations frauduleuses qui ont à voir avec les SND. Alors, ce n'est pas très clair, mais nous avons un panel d'experts ici qui vont s'attaquer au sujet du point de vue non technique, c'est-à-dire qu'ils présenteront les différents sujets. Ensuite, nous aurons une discussion sur ce que nous pouvons faire, comment y remédier, et les sujets que nous n'avons pas couverts et qui sont pourtant présents sur l'Internet. Alors, nous avons deux parties. La première porte sur les dernières évolutions dans le combat contre les utilisations frauduleuses des systèmes de noms de domaine. Et du point de vue des gouvernements, nous avons Michael Bush de la Commission européenne à la DG Information, Société et Médias. Michael. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que nous pourrions avoir le transparent, s'il vous plaît? J'aimerais vous présenter un mode d'utilisation frauduleuse très spécifique et je me place du côté de la protection infantile pour les utilisateurs d'Internet, les enfants utilisateurs d'Internet. Donc la communication met en œuvre un programme depuis plus de 10 ans avec l'utilisation de nouveaux moyens de technologie, moyens de communication, ainsi, afin de couvrir donc toutes les nouvelles technologies, en particulier pour protéger les enfants, donc toutes les images nocives, qu'il s'agisse de maltraitance d'enfants ou de racisme. Donc je vous donne un aperçu bref de notre point de départ en ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de ce système de nom de domaine. Ce matin, différentes activités et actions ont été menées, mais notre programme sur Internet se concentre sur différents publics, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les médias, les politiciens et les enfants. Nous essayons de signer un accord avec les acteurs les plus importants dans ce domaine. Par exemple, nous avons des coopérations avec le secteur des téléphones portables pour protéger davantage les enfants qui les utilisent. Nous essayons également d'évaluer ce qui se passe. Nous menons des recherches. Par exemple, l'une des deux plus importantes recherches porte sur les situations dans lesquelles un adulte souhaite se faire passer pour un enfant afin d'obtenir un contact de nature sexuelle avec un autre enfant. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous donnerai les exemples les plus prominents de nos activités. Vous en avez peut-être entendu parler. Chaque année, en février, nous célébrons la journée d'un Internet plus sûr. Et la dernière fois, le sujet était la protection des images, c'est-à-dire les images de vous-même, les informations personnelles. C'est une campagne qui s'intitule « Réfléchissez avant de poster ». Et comme vous le voyez, ça ne se passe pas uniquement au sein de l'Union européenne. C'est un phénomène qui dépasse de loin nos frontières. 65 pays du monde entier ont participé à cette initiative et aux activités dans leur pays. À présent, je passerai à un côté malheureusement assez désagréable du sujet, c'est-à-dire les contenus illégaux, en particulier les contenus où on peut apercevoir des enfants victimes d'abus sexuels. Pour lutter contre ce phénomène, nous avons créé un réseau de lignes téléphoniques basé sur des organisations civiques, c'est-à-dire que des citoyens qui ont découvert ce type de contenu, ou des images d'abus sexuels d'enfants et autres, peuvent dénoncer ces phénomènes à une organisation spécifique. Ensuite, la ligne téléphonique, le système se met en contact avec la police ou le service compétent dans le domaine. Et comme vous le voyez, l'organisation mère s'appelle In Hope. C'est une association de tous les réseaux qui couvre également différentes lignes téléphoniques hors de l'Union européenne. Nous avons des membres de In Hope dans 31 pays par le monde. Et pour que vous compreniez mieux à quoi les lignes téléphoniques se consacrent, eh bien, elles font une sorte de tri des plaintes qu'elles reçoivent. Et si effectivement le contenu est illégal, soit elles l'envoient immédiatement au service de police local, si bien sûr l'image vient du pays. Si ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'un pays partenaire, alors ils contactent la ligne téléphonique du pays partenaire pour que ceci se charge de l'appel à la police. Donc ceci a vraiment aidé le travail de coopération avec la police. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème que nous évoquons ici, l'année dernière, ces lignes téléphoniques ont enregistré 96 300 dénonciations d'abus sexuels sur les enfants. Et plus de 100 173 dénonciations ont été passées aux agences de police. Et maintenant, nous essayons de... nous assurer que ces dénonciations soient également reportées sur le fournisseur d'accès à Internet, et ceci le plus rapidement possible. À part ces lignes téléphoniques, la Commission européenne soutient également le travail de la police dans ce domaine. Donc, par exemple, au moyen de la coalition financière européenne contre les abus sexuels d'enfants et les images y afférentes sur Internet. Et le système bancaire coopère avec la police afin d'identifier des paiements qui auraient été faits pour acquérir ce type de matériel. Parce que bien sûr, le consommateur doit payer avant d'avoir accès à ce type de site. Nous organisons également des conférences de mise en application de la loi. L'année dernière, celle-ci s'est tenue à Helsinki en septembre 2009. Nous assistons également la police avec les outils dont ils peuvent avoir besoin. Par exemple, récemment en Autriche, 3 personnes s'étaient réunies et avaient réuni 1 million d'images d'enfants victimes de violences. Et donc, pour faciliter l'analyse de ces images, nous fournissons des logiciels qui, bien sûr, facilite la tâche de la police. C'est une analyse qui est bien plus rapide, qui ne doit pas être manuelle. En ce qui concerne les problèmes du système de nom de domaine, eh bien, la fondation Internet Watch au Royaume-Uni, c'est une organisation qui se concentre sur la lutte contre les images pornographiques infantiles sur Internet. Et l'année dernière, 8844 cas d'abus sexuels d'enfants en images a été reporté. Donc les URL ont été identifiées sur 1316 domaines différents, mais le nom de domaine est bien inférieur effectivement au nombre de cas. Et donc ces images d'enfants au Royaume-Uni, il y en avait plusieurs. Il s'agissait pour la plupart d'enfants de moins de 11 ans et d'images qui montraient bien comment l'enfant était violé. Je ne peux pas vous montrer ce type d'images parce qu'elles sont évidemment insupportables. en octobre. Grâce à notre réseau, nous serons à même de vous donner un meilleur aperçu de l'ampleur du problème et du lien entre ce site et entre les problèmes existants. Nous avons créé une base de données qui sera alimentée par les différentes lignes téléphoniques que je vous ai montrées, afin que nous ayons un aperçu clair du nombre de pages qui y figurent et du nombre de domaines auxquels ils correspondent. La question que j'aimerais poser ici est de savoir si nous devrions permettre au DNS d'être utilisé de façon frauduleuse pour accueillir ce type d'image. Nous aimerions émettre une proposition, donc à vous et à ICANN et toutes les organisations partenaires. Nous aimerions vous inviter à une réflexion sur une procédure permettant d'élaborer des instruments pour révoquer les noms de domaine. Les noms de domaine, bien sûr, utilisés de façon frauduleuse. Et donc, ceci créerait un modèle qui serait l'UDRP, c'est-à-dire le processus de résolution des conflits afférents au nom de domaine. Et c'est un modèle qui se base sur le soutien d'organisations qui entreprennent des procédures d'arbitrage. Et donc, j'aimerais suggérer que le groupe de travail ou la task force à ce but a été créée et elle pourrait, doit être composée. Elle pourrait être composée de membres de la Commission européenne, d'ICANN et d'autres organisations afin d'élaborer des solutions possibles à ce problème que je viens de vous exposer. Enfin, si ce sujet vous intéresse davantage, par exemple les informations régionales, vous pouvez les trouver sur notre site internet et tous les aspects que je n'ai pas pu vous présenter y sont disponibles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michael. Je pense qu'il y a déjà des questions dans la salle, mais je suggère que nous y répondions plus tard parce qu'au cours de la phase de préparation hier, nous avons découvert que nous avons immédiatement donné la parole aux questions et ça ne s'est plus arrêté. Alors, nous conservons la place des questions à la fin de la session. Et notre orateur suivant, eh bien, c'est Will Smith de PayPal. Il y a sûrement de nombreux cas d'utilisation frauduleuse à nous expliquer. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour la soirée merveilleuse que nous avons passée hier. Merci à Eurid. C'était vraiment un privilège d'y participer. Alors, je vais parler des utilisations frauduleuses de DNS en ce qui concerne les attaques pornographiques, les parodies de sites, les conflits cœurs, etc. Donc, ce qui est considéré comme une tentative de hameçonnage, enfin, tous les différents types d'utilisation frauduleuse. Moi, j'aimerais dire que ça dépend simplement du point de vue. Et on ne peut pas dire que dans tous les cas, il s'agit d'une utilisation frauduleuse du DNS. Du moins, ce n'est pas dans l'intérêt du public. Donc, il s'agit des DNS, des TCP, des IP, des IPSec. SSC, donc nous utilisons des tas d'acronymes et ça n'a pas vraiment d'importance finalement. Mais la question que moi j'aimerais poser, c'est à l'utilisateur final, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, eh bien ils ne comprennent pas forcément la différence entre IP, DNS, TCP, HTML, SMTP, etc. C'est toujours la même chose pour eux. Et pour eux, lorsque un événement inattendu et négatif se produit, par exemple lorsque l'on clique sur un lien qui vous dit PayPal et ça vous emmène vers un site alternatif, disons, où vous avez été hameçonné, eh bien, ils vous contactent, si déjà ils vous contactent, Ils ne vont nulle part ailleurs. Ils viennent nous voir parce qu'ils voient PayPal et ils pensent que c'est notre faute. Et j'aimerais que nous remédions à ce problème. Évidemment, nous ne pouvons pas le faire à 100%, mais en travaillant ensemble, nous pouvons essayer d'améliorer le système. Certains dans cette salle et hors de la salle comprennent ces problèmes, mais l'utilisateur moyen ne comprend pas. Mes parents ne comprennent pas, ma fille ne comprend pas. Et elle est pourtant, diplômée de Sciences Po. Elle utilise Internet, mais elle ne comprend pas ces termes. Donc nous devons nous assurer que la sécurité sur Internet soit garantie. Et ceci est notre responsabilité, qu'il s'agisse de cette salle ou pas. Je suggère que la façon dont nous pouvons prendre ces décisions, c'est que, qu'il s'agisse de décisions politiques, techniques ou commerciales, il faut toujours se poser la question, c'est-à-dire, est-ce dans l'intérêt du public? Et si nous le faisons, nous parviendrons à un meilleur environnement. Merci.
Thank you, Bill.
Merci, Bill. Une question rapide. Je ne dirais pas que j'ai été victime, mais régulièrement, je reçois des emails où on me demande de mettre mon compte PayPal à jour. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une idée des statistiques, des occurrences quotidiennes de ce phénomène ? Moi, je n'ai pas vraiment les informations spécifiques. En tout cas, je ne peux pas vous les révéler. Mais je peux vous dire que c'est un nombre assez considérable. Et c'est pour nous un problème vraiment préoccupant. Nous nous montons sur pied des groupes d'emails. Nous essayons de remédier au problème pour essayer de bloquer ce type de message. Et c'est là que nous fournissons tous nos efforts. Ce que nous faisons en ce moment, c'est signer tout le courrier qui part de chez nous. Et ceci devrait aider. Alors maintenant, nous avons Peter Janssen. Il travaille pour Eurid. Et dans la mesure où je travaille aussi pour Eurid, nous avons travaillé tous deux sur le domaine du hameçonnage et Peter va expliquer ce que nous avons essayé de faire. Merci, Marc. Bonjour de ma part aussi. Je suis contente de voir ma présentation parce que je l'ai envoyée peut-être 2 minutes avant le début de cette présentation. Donc, c'est très efficace. Bravo. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ce que nous avons réalisé pour tenter de prévenir tout type d'utilisation frauduleuse sur l'utilisation des systèmes de nom de domaine. Je suis manager technique chez Eurid, mais je vais essayer d'être le plus clair possible pour que les non-techniciens puissent le comprendre. Alors, pour vous expliquer clairement les vrais problèmes, eh bien, on doit repartir un peu en arrière lorsque quelqu'un s'enregistre. Lorsque des informations sont enregistrées, il se passe une génération de dossiers de zone, c'est-à-dire que toutes les informations sont envoyées vers le système de nom de domaine et celui-ci prend corps. Ceci se passe une fois par jour, une fois par heure, et c'est ce que tous les registres du monde font. Donc, si vous le faisiez de façon, de façon graphique, vous voyez ici le registre, l'information est envoyée vers le moteur d'enregistrement. Ensuite, ça passe vers le générateur de fichiers de zone, et ça passe par le maître caché et vers les esclaves publics tels qu'ils sont décrits sur le document. Nous le faisons de la sorte et nous poursuivrons dans cette voie, mais l'avantage, c'est qu'il y a une différence entre l'enregistrement du nom de domaine et la possibilité d'utilisation de nom de domaine. Donc si on en retourne à ce qu'on faisait au début, c'est la même chose, mais simplement nous avons remplacé ce petit bloc à gauche qui s'appelait générateur de zone. Et maintenant, nous appelons metteur à jour dynamique. Donc évidemment, il y a un grand avantage. Quelqu'un utilise un nom de domaine et souhaite envoyer des emails et il en est immédiatement capable. Mais bien sûr, l'inconvénient avec cette nouvelle méthode est que si un hameçonneur ou une autre personne malveillante essaie de s'enregistrer sur ce nom de domaine, il sera évidemment, bien sûr, capable d'utiliser ce nom de domaine immédiatement aussi. Donc la solution que nous y avons apportée, c'est un dispositif que nous appelons Admin Interface, une interface administrative, et nous pouvons révoquer le nom de domaine pour quelque raison que ce soit, s'il y a une utilisation frauduleuse ou si les critères ne sont pas corrects. Et ce nom de domaine est, enfin, cette demande est immédiatement retirée et c'est un phénomène qui fonctionne très bien. Nous l'avons prouvé au cours des derniers mois et ceci permet de lutter contre les utilisations frauduleuses des noms de domaine et des systèmes d'enregistrement. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est aller une étape encore plus loin et essayer de permettre que toutes les informations, d'où qu'elles viennent, quel qu'en soit le type et d'où qu'elles viennent, considèrent chacune des tentatives d'enregistrement et pour chacun des enregistrements réussis, il essaie de déterminer s'il s'agit vraiment d'une utilisation frauduleuse. Et bien sûr, on n'a jamais un taux de résultat de 100% correct, mais notre département juridique pourra considérer le nom de domaine et voir si quelque chose ne tourne pas rond. Donc nous avons les bureaux d'enregistrement, le processus d'enregistrement et maintenant un autre élément qui définit le niveau de risque. Alors, je vous expliquerai avec le transparent suivant. Si le risque est suffisamment bas, le nom de domaine va simplement passer dans la zone comme d'habitude et au bout de quelques secondes, il prendra corps. Rien ne se passe. Mais si le niveau de risque est déterminé comme étant suffisamment haut, eh ben, le nom de domaine est enregistré, se trouve dans une base de données, est offert par les bureaux d'enregistrement. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas dans les DNS, donc il ne peut pas être ni utilisé, ni de façon normale, ni de façon frauduleuse. Ce que nous faisons alors, c'est que l'équipe juridique considère ce nom de domaine et essaie de déterminer pourquoi il a été signalisé comme faisant partie de la catégorie à haut risque. Et si il y a une infraction à toute règle, à toute loi en rigueur, si ce n'est pas le cas, bon, ça passe, mais si c'est en infraction avec une règle ou une loi, eh bien, nous révoquons le nom de domaine. Donc, pour tous ces fraudeurs, pour tous ces malfaiteurs de l'Internet, cette possibilité de révocation après l'Internet leur interdit de bénéficier d'une heure ou deux d'utilisation active. Nous les leur enlevons. Donc on pourrait nous comparer à une sorte de moteur de détection. Pardon. Oui, un moteur de recherche pour détecter les spams. Donc nous avons des règles, mais dès que nous trouvons un nom de domaine étrange, plus nous avons de chances à présent de le signaler comme étant frauduleux. Évidemment, l'information typique, c'est l'adresse du bureau d'enregistrement, toutes les informations présentes, mais aussi, par exemple, des informations historiques ou statistiques qui nous expliquent que ce bureau d'enregistrement peut être reconnu ou, par exemple, s'il s'exprime souvent sur le site du nom de domaine. Et ce sont des règles qui viennent à la fois de l'intérieur de l'entreprise comme de façon externe. Alors, en ce qui concerne les contributions pour déterminer ce niveau de risque, eh bien, l'une des façons est d'essayer de faire fonctionner ce système au niveau mondial, donc essayer de parvenir à une base de données commune. Je ne sais pas quel type de contribution nous pouvons obtenir, mais essayer de généraliser ce système. Donc, toute personne travaillant dans ce domaine pourraient nous apporter leur contribution. Merci beaucoup.
Thank you. Merci infiniment, Peter. Nous allons passer maintenant, monter la chaîne et voir plus d'outils concernant la lutte contre les usages frauduleux du DNS, donc de Richard Cox et Stratton. Je sais que nous avons aujourd'hui beaucoup de participation à distance. Nous avons seulement 10 minutes et maintenant nous n'avons que 8 minutes. Donc nous allons devoir faire une présentation très rapide. Les transparents sont sur le site. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à suivre, je vous prie de regarder le site web. Et sinon, vous passez après le déjeuner. Bon, on y va. Nous existons depuis plus longtemps que ICANN. Nous avons fondé, nous avons construit la confiance de la communauté partout dans le monde. Notre objectif est de donner des informations aux fournisseurs de services d'accès pour qu'ils protègent leur réseau. Il est aussi simple que cela. Nous donc fournissons les données gratuitement. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous publions les informations que les chercheurs peuvent utiliser. Nous avons une très grande liste qui peut être utilisée pour pouvoir lutter contre certaines nuisances. Et nous faisons également beaucoup de choses dans l'application de la loi. Je ne vais pas seulement mentionner Iralski aux États-Unis, où nous avons aidé le FBI. Il y a eu 2 arrestations hier à Londres et la police doit être félicitée. Et nous travaillons avec eux de manière régulière. Ce n'est pas quelque chose duquel nous pouvons parler, de laquelle nous pouvons parler. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'héberger un domaine ou de son service de nom par des proxys qu'il est difficile, qui peut ne pas être facile de trouver. Il apparaîtra qu'un grand nombre de sites partout dans le monde, mais nous savons qu'il y a des possibilité d'avoir des hébergements sans problème, donc il y en a qui ont passé à des hébergements où on ne peut pas les trouver. Vous pouvez voir le transparent suivant et voir l'approche fast flux qui peut être utilisé, par exemple, dans la contrefaçon de médicaments, les sites d'hameçonnage. Les logiciels malveillants facilitent les autres attaques. Si vous utilisez un logiciel malveillant, vous êtes en train de faire beaucoup plus d'abus que les abus contre les enfants. Et là, nous avons donc le flux hosting. Et vous pouvez voir que ça se déplace de nouveau. Il parle toujours de la même statique et c'est un peu difficile à trouver. Nous avons introduit donc la block list des domaines. Et nous avons aujourd'hui avec nous Karel Van Straten qui l'a inventé avec son frère. Et je pense que ceci va beaucoup aider la communauté. Alors, le domaine block list, c'est la liste de blocage de domaines. C'est une liste de noms de domaines dynamiques que nous considérons abusifs d'une certaine manière. En général, elles ont à voir avec les pourriels, mais il y a d'autres questions qui sont également impliquées. Cette liste est présentée au public sous la forme d'un DNSPL pour que vous puissiez la chercher. Les objectifs principaux sont de fournir une protection supplémentaire et de réduire la vie des domaines contrôlés par les spammers. Nous faisons des mises à jour toutes les quelques minutes. Nous utilisons beaucoup de contributions et d'apports pour que nous soyons sûrs que tous les noms de domaines qui sont suspects soient inclus dans la liste. qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons tous les noms de domaines, donc nous énumérons tous les domaines qui sont sous le contrôle des cybercriminels et des spammers, qui sont utilisés pour des pourriels, pour l'hameçonnage ou pour des mauvaises activités ou pour des logiciels malveillants ou pour des buts de redirection, de réorientation. Le filtrage des emails. Nous attendons donc à ce que le nom de domaine, nous retirons le nom de domaine de cette place. Nous avons fait quelques observations très intéressantes. L'une d'elles a rapport à des opérations qui utilisent de nouveaux noms de domaine quelques minutes, et c'est un peu contraire à ce que les utilisateurs normaux ou les entreprises normales d'enregistrement feraient, puisqu'elles enregistrent pour avoir leur nom de domaine pendant un certain temps et avoir une réputation. Donc ceux qui enregistrent beaucoup de noms de domaine en plusieurs minutes sont considérés comme suspects. Les cybercriminels considèrent les noms de domaine comme étant une ressource jetable. Quelques spammers un nom de domaine qui est utilisé pendant plus longtemps est un meilleur nom de domaine qu'un domaine qui existe depuis longtemps est sûrement un domaine qui est de meilleure réputation ou un meilleur domaine moins suspect qu'un domaine qui est là qui a enregistré pendant un temps très réduit. Nous prenons un exemple qui se trouve sur le transparent. Je ne peux même pas le prononcer. Apparemment, avec des noms de domaine tels que celui-ci, il est clair que nous avons un processus malveillant. Parlant de... de se cacher, la confidentialité du who is est une question très importante. La majorité des domaines qui passent par des services de proxy, donc d'anonymisation. Qu'est-ce qui se passe? C'est le seul outil qui peut arranger le problème. En Fédération russe, il est impossible de permettre au bureau d'enregistrement d'arrêter un nom de domaine sans qu'il y ait une décision de cour de justice. Je suis d'accord, ça n'a jamais été l'intention de l'Internet ou que les bureaux d'enregistrement soient les cibles. Ils enregistrent seulement les noms de domaine. Mais quand les criminels utilisent le fast-flux, ils déplacent le point de contrôle de la société d'hébergement, ils sont sur les IP de consommateurs qui ont été compromis. Ils ne sont pas en train de louer un service d'hébergement pour ceci. Pour moi, il y a quelque chose qu'il faut que nous abordions. C'est pour cela que nous avons introduit le DBL. Je veux vous rappeler qu'il y a des logiciels malveillants qui sont experts en usurpation des justificatifs. Ils utilisent des informations de cartes de crédit volées. Ils utilisent le nom et les informations de cette personne sur le WHOIS. Et il est très difficile de les trouver. Nous avons des méthodes et le seul problème pour le déterminer est un problème. Nous avons produit ceci pour essayer de bloquer. Donc, nous avons une partie de la solution qui bloque les messages. Nous pensons que nous avons besoin d'un crochet de navigateur, un browser hook. Et ceci permettra d'avertir l'utilisateur contre les domaines qui pourraient leur causer des problèmes. Et enfin, les informations que nous fournissons sont à la disposition des bureaux d'enregistrement, tels que le RID, par exemple, qui peuvent interrompre et suspendre un domaine immédiatement si les caractéristiques d'un DBL sont réunies. Nous pensons qu'ici, nous avons la possibilité d'aider la communauté pour éliminer ce genre de domaine du système. Et dans leur contrat, il faut que ceci soit prévu. S'ils ne font pas ce que nous prévoyons, c'est que nous ne pourrons pas résoudre le domaine et héberger les noms qui sont dans le DBL. Nous savons que la sécurité du DNS est très importante, mais la possibilité pour l'utilisateur final d'utiliser est maintenant disponible. Nous produisons uniquement les données. Merci infiniment pour ceci. Merci Richard. Maintenant, nous passons, et Carole, avant de passer aux questions qui s'adresseront à ce panel, je voudrais vous poser une question moi-même. Combien de temps il faut avant qu'un nom soit mis, introduit dans la liste, dans la blocklist, et quels sont les critères? Et est-ce que vous avez bloqué des domaines, des noms de domaines qui sont apparus par la suite comme étant des noms de domaines réels et authentiques? Bien sûr que nous avons fait des erreurs, et il est très facile donc d'éliminer le domaine. Et s'il est mauvais, il sera remis de nouveau dans la liste de blocage. Donc, quelques minutes, et en quelques minutes, ceci est disponible à la disposition des personnes qui sont à la recherche d'un nom de domaine spécifique. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je pense que vous avez répondu à ma question. Nous sommes la seule organisation dans le monde qui émette toutes les minutes, qui réémette toutes les minutes. Nous n'avons pas sorti cela avant d'être tout à fait sûr. Tout ce qui est qui est suspect d'être un faux positif, qui est suspect d'être un faux, nous explorons immédiatement. Nous voyons qu'est-ce qui a causé ceci et nous apprenons tout le temps. Vous ne pouvez pas nous envoyer seulement des données. Il faut raffiner le système, affiner le système. Nous avons des XPL et c'est pour cela que nous arrivons à être performants. Merci. Maintenant, pour les personnes dans la pièce, est-ce qu'il y a des questions aux panélistes ou est-ce qu'il y a des expériences que vous voudriez partager avec nous, desquelles nous pourrions apprendre? Et il y a également les questions en ligne. La première question est de Doug Barton et il pose la question à PayPal, à Bill Smith. Sa question est: en s'inscrivant avec WEC Technology PGP, j'ai pas compris la question, dit-il. Je pense qu'il s'agit de la signature des emails. Mais quelle est la question? Qu'est-ce que nous faisons? Ah, quelle technologie nous utilisons? Je pense que c'est le DICAM et peut-être le ADSP. S'il m'envoie un email, je lui répondrai. Je pense que c'est le DICAM et peut-être la DSP. Qu'il m'envoie un message à bill.smith@paypal.com. Du Brésil, pour les gens de Spam House, vous avez mentionné quelques mots, quelques noms dans votre présentation. Vous avez les pays, le top 10 des pourriels. D'abord, nous avons les États-Unis, puis la Chine, puis la Russie, puis le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Brésil. Je pense qu'il y a une erreur ici, non? Non, je ne suis pas sûre d'où viennent ces chiffres. Spamhouse.works statistiques. Ah, ça n'a rien à voir avec notre présentation. Vous parlez de notre page web. Il y a beaucoup de manières différentes de mesurer la malveillance. Nous essayons de présenter chaque série d'informations de manière juste et équitable. Je sais qu'il y a beaucoup de cybercrimes qui trouvent leur origine en Fédération russe. Et nous sommes bien préoccupés par ceci. Mais d'autres pays ont également d'autres aspects de malveillance. Nous publions autant d'informations que possible pour donner la possibilité aux personnes dans ces pays de pouvoir aborder les problèmes au moment où ces problèmes émergent. Une autre question de la plateforme en ligne, c'est une question de John McCormick. Et la question s'adresse à Peter. L'analyse à travers les TLD est facile, mais avec les CCTLD, c'est là le problème. Parce qu'il n'y a pas d'accès à la zone des CCTLD. Est-ce que le RID a considéré une vérification à travers les CCTLD utilisant le DNS au lieu des fichiers des zones pour les nouveaux domaines? Une réponse rapide. Nous sommes en phase d'examen des options qui se présentent à nous et l'une d'elles est de voir comment nous pouvons travailler sans les CCTLD et avoir le protocole exact, précis qui serait utilisé. Je pense que dans la mesure où nous aurons l'information dont nous avons besoin aussi rapidement que possible, ce n'est pas la méthodologie qui va nous compliquer les choses. Nous sommes en train d'examiner tout ceci et nous verrons par la suite comment procéder. Merci Peter. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Je suis Vansnik. Et je représente les intérêts des consommateurs et des utilisateurs et une partie de At Large. J'ai deux commentaires. Je voudrais féliciter la Commission européenne pour son projet ceci prouve donc son projet d'internet sûr. Et je voudrais commenter ce qui s'est passé l'année dernière à Mexico. L'année dernière, nous avons eu pour la première fois un panel sur le crime cybernétique et je voudrais suggérer que l'ICANN crée ceci de nouveau, qu'elle crée un panel de crime sur le crime cybernétique et se concentre sur les résolutions, sur les solutions à apporter. Et ne pas oublier donc de demander à la communauté des utilisateurs et des consommateurs de participer à ce panel. Une question que je pose à ceux qui pourront me répondre. Qu'est-ce qui se passe avec les revendeurs des bureaux d'enregistrement? Souvent, ils sont la base, ils sont le théâtre de plusieurs, de beaucoup de fraudes. Ils ne sont pas en fait engagés par un contrat ou par des règles. Et je pense qu'à l'avenir, ceci sera un problème très important lorsque nous allons ouvrir la fenêtre des nouveaux GTLD. Si vous n'êtes pas préparé à aborder le fait que les revendeurs sont une source croissante, un monde croissant d'abus, nous ne pourrons pas arrêter les abus. Je pense qu'il y a quelque chose dans le projet Safe Internet, donc dans le projet de l'Internet sûr, qui a été ébauché, mais je voudrais savoir s'il y a des étapes qui vont être prises, et spécialement de la part des CCLD et de Spam House, par exemple. D'abord, je voudrais vous dire que vous avez presque raison, mais il ne faut pas dire à l'avenir proche, il faut dire maintenant. Maintenant, les revendeurs ne sont pas le problème, ce sont les revendeurs des revendeurs qui sont le problème. Les grands registres utilisent les revendeurs sous-traitent à d'autres revendeurs. Au niveau du registre bureau d'enregistrement, il y a un accord avec des dispositions, mais si ce contrat est cohérent avec les obligations qui sont stipulées dans le RAA, ça c'est une autre question. Ce qui se passe entre les revendeurs et leurs revendeurs est quelque chose qui est tout à fait déréglementé. Et il y a besoin d'aborder ce point-là. Nous savons très bien qu'il y a des bureaux d'enregistrement qui sont très pauvres, disons qu'ils n'arrivent pas, qui ne sont pas vraiment en position d'imposer une réglementation à leurs revendeurs. Et je dirais que concernant les revendeurs, le problème avec les bureaux d'enregistrement, c'est qu'il a un revenu très important, un revenu en masse très important. s'il sait quelle est la partie qui est en question, ils peuvent déplacer tout leur nom de domaine non bloqué vers un autre bureau d'enregistrement. Et pour le moment, les bureaux d'enregistrement n'ont pas de grande marge et ils ont peur de ce genre d'action. Et c'est pour ça que certains hésitent à aborder les crimes cybernétiques et ce problème avec leurs revendeurs. Je suis tout à fait d'accord également avec l'établissement d'un panel sur le crime cybernétique. Une autre question de la plateforme en ligne, cette question provient de Wendy Seltzer, et la question est combien souvent les domaines sont inclus dans une liste noire de Spam House par une troisième partie, par une partie tierce, pour une revendication d'utilisation de nom. Pour le moment, si j'ai bien compris la question, elle se réfère à des sites et qui sont compromis, qui redirigent les fichiers vers des sites web malveillants. Nous ne l'avons pas encore, donc, mais nous le ferons à l'avenir. Une question de la salle, Rick Wilhelm de Network Solutions. Vous avez le mécanisme de notation que vous avez décrit. Lorsque l'enregistrement est remis en fin de queue et qu'elle est sous examen juridique, qu'est-ce qui se passe avec cet enregistrement et comment ceci est communiqué au bureau d'enregistrement et ou au bureau d'enregistrement potentiel? C'est quelque chose qui est plus juridique qu'autre chose. Je vais essayer de répondre. Ce que je pense, c'est qu'il y aura une sorte de règle qui aura été enfreinte. Et donc, ceci passe directement à la procédure de révocation. Le bureau d'enregistrement en sera informé, bien sûr. Ce que nous faisons maintenant avec les noms de domaine. Donc, nous ne pensons pas qu'on fera ceci dans un autre cadre de temps. Nous le faisons en général après la délégation. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Et tout à fait resubventionné, refinancé, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Je penserai que non. Je penserai que non. Pas remboursé. J'ai raté la question. Ah, s'il y a un refinancement, si le domaine est révoqué. Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être ouvert au débat. Je crois que les bureaux d'enregistrement ont une responsabilité à prendre aussi. Et s'ils n'ont pas bloqué dès le départ, ils ont des responsabilités. Et j'ai le sentiment que s'ils ne l'ont pas fait, ils vont perdre l'argent de l'enregistrement. Donc, vous prévoyez une articulation avec le mécanisme de notation où, en tant que bureau d'enregistrement, il faut qu'il devine ce qui va se passer. Non, non, il y a une question sur la plateforme en ligne. Et ça a été envoyé à l'ORID et dit, est-ce que ceci veut dire que les registres prennent la responsabilité pour les enregistrements frauduleux plutôt que les bureaux d'enregistrement? Je dirais que non. Nous avons des responsabilités communes. Les bureaux d'enregistrement et les registres sont responsables. Nous avons et vous avez des données que nous n'avons pas. Vous avez des informations de carte de crédit que nous n'avons pas. Et en utilisant ces informations de carte de crédit, vous pouvez être arrivé plus tôt dans la chaîne que nous. Et donc, vous pouvez peut-être bloquer un nom de domaine frauduleux plus rapidement que nous. Comment le faire? Il faut que nous ayons une plateforme, que nous établissions une plateforme où nous discutions comment nous pouvons travailler conjointement, en collaboration, pour lutter contre les abus, contre la fraude, et donc collaborer dans plusieurs domaines. Je ne veux pas dire que c'est la responsabilité complète des bureaux d'enregistrement. Nous avons aussi une part de responsabilité, mais je voudrais que nous travaillions en collaboration. Je ne parle pas du regroupement des bureaux d'enregistrement dans l'ensemble, mais bien sûr, nous attendrons avec impatience le dialogue et nous accueillerons un dialogue avec les registres. Nous avons tous notre part de responsabilité. Que ce soit technique ou pas, nous devons trouver des solutions à ces problèmes et ces problèmes ne vont pas disparaître. Les mauvais acteurs, les acteurs du mal vont trouver des moyens pour réagir rapidement et pour jouer de nouveau, pour se manifester de nouveau. Merci infiniment pour ce panel. Je pense que nous n'avons plus de temps. Pour la première partie, je voudrais remercier tous les membres de ce panel pour la contribution. Il y aura des remarques finales, mais une des remarques que je prévois déjà, c'est que nous devons collaborer et nous devons prévoir quelque chose pour démarrer cette collaboration. Est-ce que je peux vous demander au deuxième panel de me joindre? Et il s'agit de la deuxième partie et l'adoption des pratiques industrielles du secteur pour protéger les consommateurs, donc les codes de conduite, les initiatives qui sont prises par les bureaux d'enregistrement et par les registres.
Okay, so we're ready.
Très bien, nous sommes donc prêts pour la deuxième partie. Nous avons un panéliste qui nous rejoint à distance. Il s'agit de Jeremy Malcolm de la part de l'Association internationale des consommateurs. Il parlera le deuxième, mais premièrement, nous aurons une intervention d'un panéliste des Pays-Bas, vote donatrice sur l'autorité des... pas des Pays-Bas, de la Pologne, par exemple. L'autorité des postes et télécommunications, donc un organisme de mise en application de la loi dans le domaine de la lutte contre les courriels, les pourriels et les logiciels malveillants. Donc, je suis le président du groupe de travail sur la criminalité sur Internet et je vous en parlerai un peu plus tard. Nous avons ce groupe de travail qui est établi à Prague depuis le mois de mai et cette initiative publique-privée. Premièrement, j'aimerais vous dire qu'évidemment, il existe de nombreuses agences de mise en application de la loi. Vous en avez dû rencontrer beaucoup au cours de cette semaine. Je ne vais pas tout passer en revue parce que mes collègues ont déjà dû pas mal débattre sur cette question. Mais j'aimerais aborder le point d'un autre angle. C'est la question de vous expliquer ce que Richard a déjà fait de la part de Spam House. Donc nous, lorsque l'on entend 3 hamburgers pour le prix de 2, lorsque l'on reçoit un pourriel de la part d'un serveur local, eh bien, souvent, lorsque quelqu'un fait un usage frauduleux, souvent le texte n'est pas exactement correct. Mais la fraude est souvent impliquée. Il s'agit de produits, par exemple, que vous souhaitiez commander. Vous ne savez pas exactement ce que vous recevez, des médicaments qui ne sont pas les médicaments que vous pensiez. Donc voilà ce qui se passe. Et en ce qui concerne le hameçonnage, il s'agit d'une pente glissante. Il y a différents acteurs qui jouent un rôle. Et donc, lorsque l'on vous demande de cliquer sur quelque chose, on vous dit « Ah, c'est un virus, ceci va compromettre votre PC » et le cycle est relancé. Comme ceci nous a déjà été expliqué. Mais ceci signifie qu'il y a une possibilité de créer un système qui multiplie les spams. C'est un cercle vicieux. Et lorsqu'on vous dit « Vous reconnaissez cette personne ?» On pensait qu'il était mort en 1940, Al Capone. Mais, bon, la photo n'apparaît pas à l'écran, malheureusement, mais Al Capone existe toujours. Il est sur Internet. À chaque fois que vous... C'est comme s'il essayait de faire un attentat terroriste, mais pas dans la réalité. Il peut le faire sur Internet. Et de plus en plus, les gouvernements utilisent même ce type de système, non seulement pour espionner les autres pays, mais aussi pour parfois créer des guerres. Nous avons bien vu ce qui est arrivé à la Géorgie à l'Estonie et à la Jordanie. Évidemment, il peut s'agir de quelques étudiants qui travaillent dans leur chambre et qui contrôlent un ordinateur qu'ils louent pour seulement 200-300 €. Et ils peuvent détruire un pays de cette façon. Donc, en d'autres mots, l'étude de l'OCDE sur la lutte contre les pourriels a montré que la situation est plus ou moins la même pour tous. Nous devons faire certaines choses. Le secteur doit se construire et les gouvernements doivent créer des lois de lutte contre ces pourriels. Elles doivent être mises en application. Il faut bien sûr des outils pour cette mise en application, etc. Mais ce qui a été amélioré au cours des 4 à 5 ans, c'est que même si nous réalisons tout notre possible depuis les 4 ou 5 ans, la situation ne semble que s'empirer. Donc, si un des pays vérifie la mise en application et qu'un autre pays ne le fait pas, eh bien, ça ne fonctionne pas. Si les ressources ne sont pas là, le contrôle ne peut pas se produire et les filtres individuels ne fonctionnent pas. Donc, ce dont nous avons décidé récemment à Prague est la création d'un groupe de travail. Et donc, nous avons listé des questions avec les bonnes communautés, avec la communauté RIPE, avec le NCC RIPE, et bon nombre des agences de mise en œuvre de la loi sont contre ceci. Parce qu'au cours des deux dernières années, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tensions aussitôt qu'on essayait d'appliquer la loi. Et même chez ICANN, au cours des deux dernières années, j'ai vu beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhensions sur les intentions mutuelles. Et il a été très clair qu'il y avait des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc la question que je me suis posée, c'est que pouvons-nous faire ? Alors, nous avons lancé une discussion et au bout de 2 mois, nous avions un groupe de travail sur ce sujet. Nous essayons de construire une liste de contacts et le DGLS nous a proposé de créer une base de données qui sera très utile et nous verrons si ceci est utilisable. Nous n'avons pas de réunion technique entre le NCC RIPE et les chercheurs en termes de mise en œuvre de la loi. NCC est un outil et donc nous devons essayer d'identifier les outils appropriés. Essayons de communiquer afin de comprendre les besoins et les possibilités de chacun. Je pense qu'il est très important de faciliter la tâche à tout le monde lorsqu'il s'agit d'une demande de modèle d'information. Et les agences de mise en application de la loi savent exactement ce qu'il est possible de demander et de ne pas demander. Ensuite, considérons les problèmes que nous avons perçus et l'identification des solutions pour ces problèmes. Sommes-nous d'accord sur ces problèmes? Et quels sont les problèmes principaux? Est-ce que nous les amenons vers nous comme agence de mise en application de la loi, parce que nous travaillons sur les plaintes qui ont été déposées auprès des grandes compagnies? Mais quels sont ces problèmes? Nous devons en discuter et partir de ce point-là. Donc, nous organisons la coordination avec les autres organes afin de faire passer le message le mieux possible, participer aux réunions d'ICEPAN, London Action Plan, Europol, Europam, afin d'influencer aussi ces réunions comme chez ICANN, afin de faire en sorte que notre message soit mieux entendu. Et enfin, il y a une conférence qui va tenter d'analyser toute la chaîne sur Internet afin d'analyser tous les différents acteurs qui sont impliqués. Et nous devons essayer de nous connaître, nous devons essayer de déterminer si nous nous réunissons suffisamment. Voilà. C'est ma présentation. Et le message que j'aimerais faire parvenir à ICANN, au regard des discussions menées ces quatre derniers jours, est que nous devrions d'abord considérer les outils que nous avons en place en tant qu'organisation, en tant qu'outils d'application de la loi, avant même d'élaborer de nouveaux outils. Donc, essayez d'identifier les outils dont vous disposez et commencez à les utiliser. Et comment le faire? Et enfin, j'aimerais bien sûr vous proposer d'en discuter avec vous, car nous sommes une autorité de mise en application de la loi. Et le message, c'est que quoi que fassent ces criminels, et quoi qu'on dise, oui, c'est Internet, c'est un nuage, on ne peut rien y faire, eh bien, ceci change. Ces malfaiteurs doivent apparaître dans le monde réel. C'est-à-dire qu'ils doivent essayer d'apparaître dans le monde numérique. Et c'est là-dessus que nous pouvons faire une différence. Beaucoup de gens dans cette salle ont expliqué des exemples du moment où ces malfaiteurs devaient faire intrusion dans le monde normal. Par exemple, Bill Smith avec PayPal ou d'autres exemples qui nous ont été donnés. Et je vais conclure par une petite caractérisation qui est due à Obama. Donc, que pouvons-nous faire? Eh bien, je vais répondre oui, je pense que oui, nous pouvons faire quelque chose. ICANN. Très bien. Nous allons à présent prendre une remarque à distance. Jeremy Malcolm, des consommateurs internationaux, qui nous rejoint de Kuala Lumpur. Est-ce que nous l'avons en ligne? Merci pour votre invitation. Je suis désolée de ne pas pouvoir être présent. Je n'ai pas non plus de transparent. Je vais essayer de rendre le son un peu plus clair. Il y a un écho. Donc j'aimerais m'exprimer de façon générale. D'un point de vue de principe. Je parlerai des initiatives qui ont été conduites, mais je dois d'abord reculer d'un pas et tenter de considérer les différents types d'utilisation frauduleuse du point de vue de la protection des consommateurs. parce que nous sommes une fédération de groupes de consommateurs de par le monde. Et de notre point de vue, je pense qu'il y a trois différents types d'utilisation frauduleuse de DNS. La première, qui est probablement la plus évidente, un nom de domaine, de système de domaine, et les façons dont le système de DNS peut être soit cassé ou rendu défectueux par un filtrage de DNS, l'empoisonnement du cache, la prise en otage des NX domaines et les virus qui visent l'opération du système DNS. Donc pour ce type d'utilisation frauduleuse de DNS, il y a en général aucune excuse légitime. Le système de DNS fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Le deuxième des trois types d'utilisation frauduleuse du DNS, eh bien, ce sont les domaines d'enregistrants qui semblent être en relation avec une organisation, un produit ou un service, alors qu'ils ne le sont pas. Il peut s'agir de hameçonnage, mais souvent, il s'agit d'autres enregistrements qui ont le but de nuire aux intérêts du consommateur pour tromper le consommateur d'une certaine façon. C'est, par exemple, vous tapez coca-cola.tld et vous apparaissez, vous finissez sur un site Pepsi. Pepsi. Évidemment, ce n'est pas vraiment grave pour les consommateurs parce que ils savent parfaitement ce qui se passe. Mais par contre, s'ils se rendent sur un site internet et pensent qu'il s'agit d'autre chose, c'est le deuxième, la deuxième catégorie de utilisation frauduleuse de DNS. Et la troisième catégorie, le troisième type, c'est l'utilisation frauduleuse de caractéristiques du système DNS qui sont des attributs intentionnels mais qui sont utilisés d'une certaine façon qu'elles nuisent à l'intérêt du consommateur. Je dirais donc que le FastFlux est un exemple de ceci et l'omission délibérée d'informer les consommateurs en est l'exemple. Maintenant, la raison pour laquelle ces trois types de DNS, d'utilisation frauduleuse de DNS existent, c'est parce que le consommateur, sa perspective est toujours régie par une règle inflexible et c'est la première. Les attaques sur le nom de domaine. C'est le type d'utilisation frauduleuse qui peut toujours être géré par une politique de couverture qui empêche ce type de conduite. Pour les autres, ce n'est pas si simple. Et pour les gérer, il va devoir y avoir un niveau de discrétion et un certain exercice d'évaluation humaine. Donc, par exemple, vous devez décider si c'est un domaine factice qui est enregistré, vous devez décider s'il est vraiment frauduleux de lui-même par nature. Vous savez, c'est une sorte, si c'est un cas de hameçonnage ou de critique de la marque ou une publicité comparative, quelque chose comme ça. Donc vous ne pouvez pas dire que tous les enregistrements de domaines factices sont en soi abusifs. Et de la même façon, l'utilisation des attributs de confidentialité des DNS constitue une tentative d'envahir la loi qui protège les consommateurs ou est plutôt une façon d'améliorer la liberté d'expression et les droits de confidentialité. Il faut choisir. Donc vous essayez, par exemple, d'avoir des raisons légitimes. Vous essayez de vous échapper de la persécution politique ou de la censure. Et la question est qui va appliquer cette discrétion pour déterminer si les enregistrements ou les utilisations du système DNS sont abusifs ou pas. Et je pense qu'il y a trois possibilités possibles. La première est d'avoir un type de système judiciaire qui au sein d'ICANN avec un système d'équivalence du DRP. La deuxième serait de le gérer à l'extérieur du système DNS et de permettre à des régulateurs nationaux, des tribunaux nationaux, des systèmes d'arbitrage nationaux de gérer ces abus. Et la troisième option est de s'en occuper au moyen des bureaux d'enregistrement ou des registres en appliquant un code de conduite. Et c'est l'option qui a été suggérée pour une discussion lors de la deuxième partie du panel. Et il y a des problèmes avec chacune de ces trois façons alternatives de gérer ces utilisations frauduleuses. L'option d'un système de tribunal comme l'UDRP est problématique dans la mesure où bon nombre des cas voient l'accusé qui ne serait pas représenté. Alors, par exemple, si vous enregistrez un domaine et que vous cachez vos coordonnées ou que vous vous changez votre lieu à cause de la crainte d'être poursuivi, eh bien, bien sûr, vous n'allez pas aller vous présenter au tribunal pour défendre votre cas. Donc, ça diminuerait quelque part l'efficacité d'un tribunal qui souhaiterait prendre en compte les allégations d'abus. Donc, comment faisons-nous au niveau national? Eh bien, le problème est que, comme vous le savez, il y a près de 200 pays dans le monde et vous devez avoir 200 systèmes juridiques qui traitent des mêmes problèmes. Et c'est la raison pour laquelle l'UDRP existe, pour fournir des certitudes sur les juridictions, parce que bien sûr, l'Internet traverse vraiment des différentes frontières, ce qui n'est pas le cas des autres mécanismes de communication. Donc, en ce qui concerne cette troisième option, qui applique un code de conduite et qui voit les registres ou les bureaux d'enregistrement s'occuper des abus, eh bien, je pense qu'il s'agit peut-être de la meilleure option, à condition qu'un intérêt public, que la représentation d'un intérêt public adéquat y figure. Par exemple, dans l'élaboration d'un code de bonne conduite et dans la révision des décisions qui sont faites sous son code. Donc, c'est la meilleure option pour le secteur et pour les consommateurs, selon moi. Et chez Consumers International, nous avons déjà expérimenté une sorte de conduite de ce type sur la base volontaire. Je peux dire que l'expérience est mitigée. Ça ne fonctionne pas toujours. Et en général, ça ne fonctionne pas très bien pour les consommateurs lorsque le processus est dominé par un secteur. Donc, je pourrais donner toute une série d'exemples, mais juste pour en citer deux, notre membre australien, une association de consommateurs qui s'appelle Choice, a critiqué les déclarations liées à l'environnement dans la publicité et le code de marketing qui existe en Australie, non seulement parce qu'il y a des lacunes dans le code lui-même, mais parce que institutionnellement, ceci relève de la responsabilité d'un organe et la publicité autorégulée, le bureau des normes de la publicité, c'est ce qui veut dire que ce code ne répond pas aux besoins des consommateurs. Ce que nous voulons, c'est que les consommateurs aient leur mot à dire dans la rédaction et la mise en œuvre de ce code. D'autres exemples dans le domaine alimentaire, par exemple pour les enfants en Europe. Ceci pose des problèmes, par exemple, ça s'applique uniquement aux enfants de moins de 12 ans, le marché dans les programmes télé et plus d'un certain pourcentage d'enfants et les critères nutritionnels qui sont inclus dans le programme. Donc, ces deux exemples de codes qui ont été élaborés grâce à un process d'autorégulation n'ont pas fonctionné. En même temps, un code peut être élaboré grâce à un processus régulatoire. Et un exemple en est le code anti-spam dans le secteur de l'Internet. Je dois vous révéler quelque chose ici parce que je viens de terminer comme président de la task force qui a élaboré ce code. Et le gouvernement, le secteur et les consommateurs se sont rassemblés pour co-élaborer ce code. Et il ne sera pas enregistré ou pas approuvé par les parties prenantes tant que tout le monde ne l'aura pas signé. Donc toutes les parties prenantes ont dû signer un certificat de consultation pour dire qu'ils étaient satisfaits avec nos intérêts et que leurs intérêts avaient été pris en compte. Excusez-moi, Jérémy, nous devons vous interrompre. Comment il va? Donc, il est important que la méthode que nous adoptons par rapport aux parties prenantes soit adéquate et que les pratiques soient codifiées. Et donc, je pense qu'il y a une façon de traiter les utilisations frauduleuses de DNS. Et dans ce but, nous devons garantir qu'il ne s'agit pas d'un processus dominé par un secteur, en particulier par le secteur. Que la voix des consommateurs soit... écoutez, j'aimerais vraiment aller dans davantage de détails, mais je n'en ai pas le temps. Merci beaucoup. Merci, Jérémy. J'espère que vous m'entendez clairement. Merci pour cette intervention. Depuis Kuala Lumpur, nous l'avons beaucoup appréciée. Ce code de conduite semble être la meilleure option pour vous, mais donc ce que vous nous dites, c'est que les organisations de consommateurs doivent y être impliquées. Alors écoutons à présent des expériences, l'expérience australienne. Chris ? Merci Mike, je n'ai pas de transparent et je n'ai rien préparé parce que je voulais moi écouter et voir où ceci nous amènerait. Je serai très bref et je ferai quelques remarques et poserai quelques questions. Donc l'explication de ce panel est d'explorer les différents codes de conduite. Est-ce que ça peut fonctionner? La réponse c'est que moi je pense que ça ne peut pas fonctionner, mais elle ne peut pas remplacer en tout cas les exigences mandataires. Obligatoire. Comme Jérémy l'a expliqué, il s'agit d'une question de jugement, de discrétion personnelle. En ce qui concerne les pourriels, eh bien, je pense que si votre boucher vous envoie un email, par exemple, vous pourriez dire que le spam classique est énervant. Agaçant. Mais la société, à un moment, a décidé qu'il était vraiment insupportable. Et donc, nous avons mis en œuvre des règles et des lois contre les pourriels. Mais on n'a pas vraiment pu mettre en œuvre un code de pratique, parce qu'on ne sait pas à qui il serait destiné. Donc, la clé, c'est d'utiliser ce qui fonctionne. Et pour se figurer ce qui fonctionne, on doit d'abord savoir en quoi consiste son objectif. Il y a sûrement dans la plupart des programmes, une sorte de programme qui s'appelle Neighborhood Watch, c'est-à-dire un quartier dans lequel les voisins s'entraident à l'heure de surveiller les maisons lorsque les voisins sont absents. Donc on colle un autocollant sur sa fenêtre qui indique que la maison est surveillée par les voisins. Donc ça aide bien sûr à limiter les cambriolages, mais ce n'est pas aussi efficace qu'un système d'alarme. Donc c'est un exemple pour montrer ce qui fonctionne et le type de moyens. En Australie, nous avons des domaines, nous avons une initiative sur les domaines trafiqués. Jérémy en a parlé. En Australie, nous ne sommes pas autorisés à enregistrer les noms de domaines mal orthographiés. Donc, donnez-moi l'exemple de l'entreprise de télécommunication australienne qui s'appelle Telstra. Et évidemment, c'est très facile de mal l'orthographier. Il y a des gens qui commettent des erreurs. Mais si vous arrivez sur un site qui souhaitait vendre des chaussures, c'est pas très grave, évidemment. Mais la raison pour laquelle c'est mauvaise orthographe sont gênantes, c'est parce que vous pouvez être emmené vers un site qui vous amène ailleurs qu'à Telstra. Et donc, il n'est pas autorisé de mal orthographié un nom de domaine. Bien sûr, vous devez donner la raison, et si vous n'avez pas de raison valable, eh bien, ce nom vous sera retiré. Donc, ceci se passe de façon infinie. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une liste des noms qui ont déjà été retirés, et si le nom est déjà sur la liste, quand quelqu'un essaie de s'inscrire sous ce nom encore une fois, eh bien, il y a une C'est signalé et vous avez une semaine pour donner la raison de cette mauvaise orthographe.
Sauf si vous dites au bureau d'enregistrement ce qu'il faut faire chaque fois qu'il a une demande pour un nom de domaine. Bien la vérifier, voir si le nom est bien épelé. Et ça peut marcher, ça peut fonctionner. Des fois, il peut y avoir une raison. Par exemple, lufthansa.com. Lorsqu'on a eu que c'était un nom de domaine, par exemple, qui avait rapport avec Dr. Lufthansa, et ça n'avait rien à voir avec la compagnie aérienne. Donc, c'est supposé être une discussion. Je vais m'arrêter maintenant. J'espère que nous aurons des questions à la fin. Merci, Riz. Le dernier... Nous avons écouté donc les opinions des registres et maintenant nous allons avoir Stéphane Van Gel d'Ingdomco qui va nous parler des enregistrements. Pour vous donner un petit contexte sur d'où je viens, Ingdom est un bureau d'enregistrement en France. Nous sommes au service des marques d'entreprises. Nous avons un modèle d'entreprise spécifique et comme vous le savez, il y a plusieurs modèles d'entreprises dans le secteur des bureaux d'enregistrement. Nous travaillons bien sûr avec des clients qui sont souvent sous attaque, en permanence sous attaque, sous attaque par le cyber-squattage, etc. Donc nous avons souvent ces problèmes-là. Et en ayant une position unique de bureau d'enregistrement et d'assistance à ces clients contre les enregistrements frauduleux, un des moyens que nous avons essayé d'aborder était de prendre des actions volontairement lorsque nous avons une notification d'un abus. Par exemple, si nous recevons une lettre, un message électronique d'une personne qui a trouvé que un nom était abusif, nous allons prendre contact avec les titulaires de nom de domaine et lui demander s'il avait des droits sur ce nom. Et s'il est clair qu'il n'a pas de droits sur ce nom, nous allons suspendre le nom de domaine ou trouver une solution avec le titulaire de nom de domaine. Nous prenons des actions proactives parce que nous croyons que la qualité du service que nous offrons à nos clients, qui sont donc des marques, est très importante. Et si nous ne prenons pas d'action dans ce sens, ceci est pour le désavantage de notre entreprise. Donc nous devons prendre des actions dans ce sens. Et chaque fois que nous l'avons fait, nous n'avons jamais eu de plainte de la part des titulaires de nom de domaine. Et nous incluons ceci dans nos conditions de service. Et donc les gens savent que si vous venez chez Ingdom pour enregistrer un nom abusif, et si nous le savons, c'est grave parce que nous avons un système automatique d'enregistrement. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais si on nous le dit, nous n'ignorons pas la notification et nous prenons des mesures. D'une autre manière, nous avons essayé d'agir en étant impliqués dans un code de conduite volontaire. J'étais le représentant des bureaux d'enregistrement au conseil de l'AFNIC pendant plusieurs années. Donc c'était le registre français. Nous avons travaillé main dans la main. Nous avons également été impliqués ou nous avons collaboré avec EURID.eu ont un code de conduite et ceci a évolué vers une situation où les bureaux d'enregistrement et les registres collaborent pour essayer et fournir une sorte de motivation qui prouve qu'ils sont à un niveau professionnel et qu'ils sont prêts à observer, à respecter un niveau de courtoisie professionnelle. Je suis d'accord avec ce que Chris vient de dire. Ce n'est pas le seul moyen de lutte et de. Et je suis convaincue, et je vais m'arrêter pour être bref et vous donner la possibilité de poser des questions, mais je suis convaincue qu'une partie de la solution est un code, une coopération, un modèle de coopération entre registres et bureaux d'enregistrement. Chris vient de décrire un système selon lequel son registre va agir et après avoir parlé avec les bureaux d'enregistrement et discuté et posé des questions comme est-ce que ceci est bien, qu'est-ce que vous pensez de ce système. Nous avons fait des choses similaires en France. Lorsque l'un de mes clients est ciblé et qu'il a un nom de domaine qui est un nom de domaine de cybersquattage, nous prenons des actions. S'ils font des poursuites juridiques, ceci va leur coûter très très cher et ils vont ressentir qu'ils ont été touchés, frappés deux fois. Et il faut qu'ils engagent des fonds pour engager des poursuites. Et après la poursuite judiciaire, soit ils vont le garder dans leur portefeuille et ça va leur coûter très cher, ou bien quelqu'un d'autre va revenir et l'enregistrer de nouveau. Donc, tous ces problèmes doivent être réglés avec les personnes qui sont à l'avant-scène. Et de toute évidence, il s'agit des registres et des bureaux d'enregistrement. Merci Stéphane. Je pense qu'on avait une question pour Stéphane. Chris, je voulais vous poser quelques questions. Vous avez parlé de quelque chose que vous avez fait et qui avait rapport spécifique avec l'abus. Est-ce que vous voyez ça en tant que marketing? Vous voulez être en position et capable d'offrir ceci en tant que solution de commercial plutôt que vous ne soyez obligé à le faire? Oui, absolument. J'ai commencé par dire qu'il y a beaucoup de modèles de bureaux d'enregistrement et je ne pense pas que le modèle de mon entreprise ou de ma société est nécessaire. Les choses qui fonctionnent pour nous peuvent ne pas fonctionner pour les autres. Mais il est clair que nous le faisons sur une base volontaire parce que nous pensons que c'est un plus commercial, c'est une motivation pour les gens, pour les clients de travailler avec Indom. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui, je voudrais signaler une expérience que nous avons au Brésil avec notre code de conduite concernant les pourriels. Ça fonctionne comme ça. C'est au-dessus de la ligne de la pente descendante. Nous ne voulons pas lutter les bandits contre les bandits. Nous voulions orienter les mauvais informants qui sont dans les pourriels. J'appelle ceci les spams, les pourriels d'ingénuité. Nous travaillons avec 50 organisations de FAI, donc de fournisseurs d'accès à Internet, avec des sites de consommateurs, des agences de marketing par courrier. Et nous sommes, la première année, nous avons eu besoin d'une année pour les conversations, les débats, puisqu'il s'agit de plusieurs parties prenantes. Et nous avons eu besoin d'une année pour arriver à une orientation technique qui fonctionne pour tout le monde. Elle fonctionne déjà et nous avons de bons résultats. Et nous avons par la suite établi une manière, un moyen de jugement. Et il y a également une liste noire en place. Il y a un moyen de ressortir de la liste noire, mais ceci est une situation très compliquée et qu'il est difficile d'expliquer maintenant. Mais cela fonctionne encore et cela n'a pas l'intention d'être quelque chose qui empêche l'application de la loi ou qui remplace l'application de la loi. Mais c'est une action rapide qui n'est malheureusement pas toujours le cas pour l'application de la législation et des lois. Merci infiniment pour le partage de cette expérience avec nous. Nous avons une question des participants à distance. Il s'agit donc d'une question de Don Plumenta. C'est une question adressée à Opta. Il y a eu beaucoup de discussions concernant les agences d'application de la loi ces derniers jours, sans définition. Comment vous définissez vos actions, vos efforts? Est-ce que vous êtes au niveau national, local, la juridiction que vous utilisez, de la manière selon laquelle nous abordons le problème? Non, quelle est la définition de l'application de la loi? C'est ça la question, je suppose. Je suis désolée. Il y a beaucoup donc de discussions sur les agences d'application de la loi sans définition. Donc je pense que la définition requise est celle-ci. Les agences d'application de la loi présentes, ce sont des unités comme des organisations de type policier qui luttent contre le crime cybernétique, mais en même temps nous avons une entité indépendante administrative, indépendante du gouvernement. Et donc, nous essayons d'appliquer les politiques et l'acte de télécommunication. Nous sommes donc en même temps une agence d'application de la loi et un régulateur. C'est une question concernant qu'est-ce que veut dire une agence d'application de la loi. C'est intéressant. L'autre jour, au CICI, nous avons parlé de ceci, nous avons eu une discussion avec les policiers qui étaient ici et nous avons dit qu'il fallait élargir la question et inclure dans les agences d'application de la loi les gouvernements, les entités gouvernementales qui ont le droit réglementaire à l'information et qui peuvent donc, qui devraient avoir des processus plus rapides. Et la question que nous leur avons posée était ok, est-ce que ceci se passe partout? Est-ce que ceci se passe dans chaque pays? Ou bien vous êtes en train de juger les agences, l'application de la loi dans un pays qui serait acceptable dans un pays spécifique et non acceptable dans un autre pays. Nous n'allons pas reconnaître, par exemple, votre législation à vous. Et tout ceci fait partie du même défi. Il y a une autre question en ligne de John McCormack. Et la question, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une liste de blocages des noms de domaines au-delà des domaines réservés et qui pourraient être diffusés au bureau d'enregistrement par les registres? Une liste de blocages qui pourrait être envoyée par les registres au bureau d'enregistrement. Ceci s'est passé dans certains pays. Il y a des listes de réserves, par exemple, il y a des noms d'université, le mot université, le mot qui est réservé, le mot olympique qui est réservé. Certains pays utilisent d'avoir une liste de mots, de noms qui pourraient offenser quelqu'un. Je pense que nous nous référions à une liste de blocages que Spamhaus mentionnait au début. Mais s'il s'agit des registres, je peux parler uniquement de RID, mais il y a une liste de réserves, de termes qui ne peuvent pas être utilisés et qui ont été publiés dans les publications officielles de l'Union européenne. Bien sûr que nous pouvons les mettre à la disposition des bureaux d'enregistrement. Les listes de blocage sont bonnes. si vous pouvez prouver pourquoi les mots, les noms sont bloqués, si vous connaissez les raisons. Il faut que vous soyez que vous agissiez avec précaution. Certaines personnes ont une raison légitime pour enregistrer un nom de domaine spécifique. Et si vous le bloquez comme ça, arbitrairement, vous ne savez pas pourquoi. Et comment trouver un équilibre entre d'une part, des noms que vous voulez bloquer pour une raison claire et évidente, et d'autre part, le fait de permettre à des personnes d'enregistrer des noms pour des raisons spécifiques. Un des moyens de le faire est la liste de noms réservés qui soit gardée longue, qui soit longue ou plus courte. Il y a des noms réservés, par exemple, par les registres, pour les registres de GTLD, etc. Il y a encore une question dans la pièce. Oui, hi, Paul Foudy. C'est un débat extrêmement philosophique. J'ai une caméra ici, une Canon, CNNON. Vous travaillez pour eux? Non, je suis très reconnaissant. Parce que Canon est devenue la première entreprise à exprimer un intérêt dans les GTLD. .canon. Mais le problème est que chaque loi que nous avons va soutenir leur candidature. Mais le mot canon est très clair, il est très clair que ce mot appartient à l'Église. C'est la série de lois chrétiennes pour l'Église. Donc, même si Canon va agir de manière légale, il y a le cybersquattage sur quelque chose qui appartient à l'Église. Donc, il faut que nous fassions très attention. Il s'agit d'un débat philosophique. Nous parlons de cybersquatteurs. Et en même temps, Google a vendu Gordon Brown aux conservateurs. Je sais pas si c'est, je vais pas dire si c'est bon ou pas bon, mais si vous êtes du côté des conservateurs qui sont maintenant le parti au pouvoir en Angleterre, et pour un mandat qui est décevant, quel est le message que nous sommes en train d'envoyer maintenant? Il faut que nous fassions très très attention. L'enquête économique qui a été mentionnée dans le rapport d'Adelman a mentionné un rapport par Adelman qui énumérait 280 exemples de cybersquattage. Donc, si nous travaillons sur cette base, si une entreprise enregistre un .tld, si les gens épellent mal le nom d'une entreprise, il y aura un problème, donc sûrement, avec la publicité de cette entreprise. Ça ne va pas être facile de mettre en place un mécanisme où vous mettriez le nom de l'entreprise dans une liste des noms les plus populaires, par exemple. Je pense qu'il faudrait prendre une décision sur cette base. Merci pour avoir partagé votre opinion avec nous. Je voudrais clôturer la séance. Nous avons déjà dépassé le temps imparti. Quelques mots sur ce que nous avons entendu au cours de cette séance. Nous ressentons tous que nous avons besoin de collaboration pour lutter contre le crime cybernétique à divers niveaux, dans diverses situations. Le timing est quelque chose de très important. Plus tôt nous intervenons, mieux cela vaudra. Si nous pouvons intervenir également au niveau du revendeur, puis au niveau du bureau d'enregistrement, du registre, nous avons des groupes comme APWG, le groupe d'anti-spam, comme le groupe de Spam House ce matin, les groupes d'anti-hameçonnage, les agences d'application de la loi. Il est important que nous collaborions tous ensemble, aussitôt que possible, avant ou pendant les premières phases de l'enregistrement d'un nom de domaine, il y a également des discussions sur la flexibilité de ce qui peut être donné. On peut trouver si les personnes qui sont en train d'enregistrer le nom de domaine ont vraiment communiqué leurs informations et leurs coordonnées réelles. Et ceci prend du temps, ça c'est vrai, et les gens veulent avoir un nom de domaine actif aussi rapidement que possible. Deuxièmement, le mot clé est la collaboration entre les diverses parties prenantes. J'ai été dans ce secteur depuis longtemps. Au départ, nous travaillons de manière tout à fait indépendante et aujourd'hui, je vois beaucoup de collaboration entre les registres et le bureau d'enregistrement. Mais il y a encore beaucoup à faire et pour avoir des systèmes plus sûrs, il faudra que ceci fasse partie de la conception. Et je pense que ceci est ma conclusion de la réunion d'aujourd'hui. J'espère que nous pourrons poursuivre ces discussions et ces débats et établir des groupes de travail pour que nous puissions démarrer des actions réelles. Et merci à tous et merci Margie pour avoir hébergé